Bonjour à toutes et à tous. Je le dis souvent à ce micro, mais ce matin j'ai encore la confirmation que Dieu veille sur son Église et conduit les choses, parce qu'on ne s'est pas concerté avec Antoine, mais vous allez voir que le message de ce matin va résonner beaucoup avec la présidence. Howard Hendricks, qui était professeur de pédagogie chrétienne dans un séminaire chrétien à Dallas, rapporte dans l'un de ses livres l'anecdote suivante. Un jour, dans une école primaire, la maîtresse demanda aux enfants de dessiner ce qu'ils voulaient. Très vite, les élèves se mirent au travail, mais au fond de la salle, il y avait un petit garçon qui passait plus de temps à regarder autour de lui qu'à dessiner. La maîtresse s'approcha et lui dit « Tu n'as pas d'idée ?» Il répondit « Si, si. » « Mais je veux savoir ce que toi, tu aimerais que je dessine. » Elle sourit, elle lui dit « Mais je t'ai dit de dessiner ce que toi, tu veux. » Et l'enfant, très sérieux, répond « Oui, mais moi, je veux que tu sois contente de mon dessin. » L'enfant ne cherchait pas une idée, il cherchait à plaire à sa maîtresse. Est-ce que nous sommes si différents de ce petit garçon ? Est-ce que nous ne sommes pas souvent en train d'essayer de plaire à quelqu'un, à un conjoint, un parent, un supérieur, un groupe, une assemblée, une culture? L'apôtre Paul, lui, dans 2 Corinthiens, nous invite à une ambition bien plus haute. Vivre pour plaire à Christ. Pas par peur, pas pour mériter le salut, mais parce que nous savons qu'un jour, nous le rencontrerons face à face. Je vous invite à lire le texte qui servira de base à notre méditation ce matin, c'est donc 2 Corinthiens 5, à compter du verset 1 jusqu'au verset 10. Nous le savons en effet. Antoine aurait dit « Nous sommes sûrs ». Nous savons en effet que si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus ce corps notre domicile qui est de nature céleste. Si bien sûr cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps, et non quand la mort nous en aura dépouillés. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Nous sommes donc en tout temps pleins de courage, et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage, mais nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous méditerons plus en détail ce matin les versets 9 et 10, mais nous commencerons par préciser un peu le contexte de ces versets. Dans les premiers versets, Paul nous dit que notre vie terrestre n'est qu'une étape, qui aura une fin. Et il compare notre corps actuel à une tente, ou encore à un habit. Et cette tente et cet habit n'ont qu'un caractère provisoire. Ils ne sont pas destinés à durer, mais ont vocation à être remplacés par une demeure éternelle ou un vêtement nouveau. Paul nous dit qu'il lui tarde de quitter le provisoire pour obtenir ce qui sera durable. On le voit quand il dit « nous gémissons » parce que nous attendons avec un ardent désir. Et cette idée d'attente, elle est reprise au verset 4. Nous qui vivons dans cette attente, là encore, nous gémissons parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Quand on gémit, en général, c'est qu'on souffre, on n'est pas bien. Et pourtant, Paul nous dit qu'il ne désespère pas, qu'il est plein de courage. Et il nous donne deux raisons. La première, c'est que c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Notre avenir a été préparé par Dieu lui-même. Ce n'est pas à nous de faire des efforts pour construire quelque chose. Dieu a tout préparé. Jésus l'a même dit aux disciples en Jean 14, 2 qu'il nous avait préparé une demeure. Et le verset nous dit que Dieu ne s'est pas contenté de nous faire une promesse, il a versé un acompte, son Saint-Esprit en nous. Alors vous savez à quoi sert un acompte? C'est un engagement à honorer le contrat. Quand on verse cet acompte, c'est le signe qu'on va exécuter le contrat qu'on vient de signer. On peut donc être sûr que Dieu tiendra parole, même si le temps, quelquefois, peut paraître long, ou paradoxe, quelquefois, nous dire « il reste peu de temps ». Deuxième raison, nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu est digne de confiance? Et la question de ce matin, c'est si telle est notre espérance, comment devons-nous vivre ce temps d'attente? Et la réponse de Paul, c'est que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition et de plaire au Seigneur. Alors la première partie du verset fait allusion au fait que nous ne savons pas quand les promesses de Dieu se réaliseront. Est-ce que ce sera après notre mort ou au retour de Jésus? Vous savez qu'à l'époque de Paul, les gens s'attendaient à ce que Jésus revienne bientôt. Et bon, les années ont commencé à passer, Paul il se dit, bon finalement ça sera peut-être un peu plus tard que ce que je pensais au début. Donc il envisage les deux situations, rester dans le corps, ça veut dire tant qu'on est vivant, ou que nous le quittions, ça veut dire une fois qu'on sera mort. Et cette deuxième partie du verset qui nous parle de plaire au Seigneur, elle est traduite de différentes façons, suivant les versions. Dans la Bible en français courant, c'est traduit ainsi, « nous désirons avant tout lui plaire ». Cette traduction met l'accent sur le désir intérieur, sur la motivation de notre cœur. Et cela nous amène à nous interroger, quelle est ma véritable motivation? Est-ce que tout ce que je le fais pour plaire à Dieu? Si vous pouvez dire ça, vous êtes bien plus fort que moi. Parce que moi j'essaye, bien malgré moi, bien souvent, de me faire plaisir. Vous avez vu dans la traduction, avant tout, est-ce que c'est vraiment ça que je place en premier? Dans la seconde 21, c'est traduit par « c'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable ». Ici, l'accent est mis sur l'effort que nous devons fournir pour plaire à Dieu et la persévérance dont nous devons faire preuve. En effet, pour plaire à Christ, nous devons mener un combat. Romains 7 nous dit « Le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Ne nous attendons pas à ce que ce soit facile de vouloir plaire à Dieu. Il ne suffit pas de dire « oui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais te faire plaisir. » On voit bien qu'il y a des luttes en nous. Un combat à mener avec persévérance et en demandant l'aide de Dieu. Darby lui traduit ainsi « Nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréable. » Cette fois, l'accent est mis sur l'intensité de notre engagement à vouloir plaire à Dieu. Le mot « ardeur » ne parle pas d'un devoir à exécuter froidement, mais d'un désir profond, d'une discipline qu'on s'impose avec joie. On est encore en début d'année, on prend des bonnes résolutions. Avec quelle ardeur est-ce qu'on va les tenir, ces résolutions ? Pour résumer, donc, Paul nous invite à vivre ce temps d'attente en faisant tous nos efforts pour plaire à Dieu. Et il nous donne une autre motivation au verset 10, « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ ». Comment font-ils comprendre ce « tous » et qu'est-ce que c'est que ce tribunal du Christ dont il est question ? Dans notre série de prédications sur l'Épître aux Hébreux, nous avons lu un jour dans Hébreux 9 au verset 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Tous les hommes meurent, sauf ceux qui seront emmenés au retour de Christ, mais enfin, on parle bien de tout le monde. Souvent dans les épîtres, quand Paul dit « tous » ou « nous », il parle des croyants auxquels il s'adresse, mais là je crois qu'on peut dire que c'est vraiment tout le monde qui est concerné. Tous comparaîtront au tribunal de Christ. Le premier jugement pour tout le monde, il s'effectue au pied de la croix. Vous connaissez très probablement ce verset Jean 3, verset 18, « Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » On voit que ce verset établit clairement une distinction entre ceux qui croient au sacrifice de Jésus sur la croix et ceux qui n'y croient pas. La croix est donc en quelque sorte le premier tribunal où tous sont appelés à comparaître, et le verdict est prononcé selon la réponse qu'apporte l'homme à la question « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Quand on pense à jugement, évidemment, on va relire des choses dans le livre de l'Apocalypse. Il nous est dit qu'il y a ce qui est appelé un livre de vie. Seuls ceux qui ont cru en Jésus ont leur nom dans ce livre de vie. Apocalypse 20, verset 15, nous dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est ce jugement qui a lieu auprès du grand trône blanc, c'est l'expression qu'on trouve dans l'Apocalypse, qui est pour le non-croyant le tribunal de Christ. Et ce tribunal les condamne à l'enfer. Vous savez, là où la Bible dit qu'il y a des pleurs et des grincements de dents. On retrouve cette même distinction entre croyant et non-croyant dans Matthieu 25, passage qu'on appelle le jugement des nations, qui se termine ainsi. « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, à la vie éternelle. » Il est faux de croire que la mort de notre corps terrestre marque la fin de tout. La Bible nous dit que tous seront ressuscités, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. On trouve ça dans Jean 5, 29. Tous nous sommes concernés. Le tribunal de Christ maintenant. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle ainsi ? Jean 5, verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Et au verset 27, « Il lui a donné aussi, donc au Fils, le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. » Jésus, parce qu'il s'est incarné, connaît parfaitement la condition humaine, il a vécu les mêmes tentations que nous, les mêmes combats, mais à notre différence, lui n'a pas péché. Il est donc qualifié pour nous juger, parce qu'il connaît le sujet dont il parle, le sujet qu'il traite, et lui n'a jamais été pris en défaut. En effet, que dirions-nous d'un juge qui nous condamnerait pour une infraction qu'il aurait lui-même commise ? Un tel juge n'aurait aucune légitimité, alors que Christ, lui, est parfaitement légitime pour nous juger. Puis on va voir si vous êtes observateur. Regardez un peu cette image. C'est quand même un drôle de tribunal. Regardez bien le juge. Et maintenant, regardez l'avocat. Mais c'est surtout que c'est les mêmes. Avec l'intelligence artificielle, on peut demander des choses. Hein. Voilà. Le juge et l'avocat, ce sont les mêmes. Jésus va être à la fois juge et il nous est dit qu'il est notre avocat. Alors là, on est vraiment ailleurs que sur terre. Parce que sur terre, ça ne peut pas marcher, un tribunal comme ça. Voilà. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alors, quel est le rôle de ce tribunal? Dans ce tribunal de Christ, il n'est plus question de condamnation pour les croyants, mais de recevoir ce qui nous revient. On n'y parle plus de condamnation, mais de rétribution. Les œuvres de chacun seront évaluées, et de cela dépendra la récompense obtenue. Romains 8, verset 1, nous confirme qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Alors on pourrait se dire, mais s'il n'y a pas de condamnation, pourquoi passer au tribunal? Pour que leurs œuvres soient évaluées. Chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Si on regarde la traduction de Darby, le verset 10 nous dit « Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ. » Manifestés, alors ça peut être sortir avec des pancartes, mais là c'est pas le sens de ce terme. Ici, manifester, c'est rendre public, c'est dévoiler, révéler publiquement. Hébreux 14, verset 13 nous dit « Aucune créature n'est cachée devant lui. » Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Comment réagissez-vous à cette pensée que toutes nos actions, toutes nos pensées, bref, toute notre vie sera exposée publiquement? Même les péchés confessés? Ben, je crois que oui. On est pardonné, mais ce n'est pas effacé, ça n'a pas disparu. Le fait de savoir que nous aurons à rendre des comptes, c'est quand même quelque chose qui nous responsabilise, qui constitue un avertissement, vous savez, un peu comme les affichettes qu'on trouve dans les magasins, établissement sous vidéosurveillance. Au cas où vous auriez l'envie de ne pas résister à la tentation de prendre cette friandise là dans le rayon, ben, attention, vous êtes filmé. Sur cette terre, dans un procès, tous les faits doivent être pris en compte pour que le verdict soit juste. Et à quelques rares exceptions près, les audiences sont publiques. Il en sera de même lorsque nous comparaîtrons devant Christ pour l'évaluation de nos œuvres. Toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, seront prises en compte. Et tout le monde pourra ainsi constater, alors pas que vous étiez pire que ce que vous en pensez encore, mais que la récompense attribuée par Dieu est juste. Ce tribunal, il est là pour manifester la justice de Dieu. En faisant des recherches, j'ai trouvé cette pensée de Jean Chrysostome qui écrit « Imaginons que le tribunal de Christ soit présent maintenant et que chacun de nous reconnaisse dans sa conscience le juge comme déjà présent. » Imaginez-le là. Révélant toute chose et l'amenant à la lumière. Cela ne vous fait-il pas rougir? Cela ne vous épouvante-t-il pas? Alors comment se fait-il que ça nous fasse peur? Ben, très probablement parce que notre conscience nous condamne encore. On sait bien qu'on est encore pécheur. Et pourtant, je ne crois pas que ce soit le but poursuivi par Christ. Bien sûr, il y a cet avertissement, attention, un jour tu rendras des comptes. Mais je crois que ce tribunal, il a surtout pour objet de refléter la justice de Dieu, par ce qu'on pourrait appeler la loi de la moisson. J'ai trouvé cette expression dans un commentaire. Vous connaissez ce verset ? Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et le deuxième objectif poursuivi, je crois, c'est de nous motiver à rechercher la volonté de Dieu et à nous responsabiliser. Ce sont nos actions qui détermineront notre récompense. Ce n'est pas le fait d'être dans une église qui est bien pensante, qui dit bien, qui est orthodoxe, enfin tout. C'est nos actions qui seront jugées. Est-ce que comme moi, lorsque vous pensez à ce tribunal de Christ, les premières pensées vont vers mes mauvaises actions, vont apparaître devant tout le monde. Nos bonnes actions aussi seront étalées devant tout le monde. Et je ne parlerai pas de moi, je veux dire, mais on sait que dans notre Église, il y a des gens qui font des bonnes actions et qui ne vont pas le crier sur tous les toits. Et on a cette parole rassurante aussi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 10, qui dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore saints. » Alors bien sûr, c'est bien de se rappeler qu'on est pécheur pour essayer de ne pas s'en accommoder, mais c'est bien aussi de se rappeler qu'on fait de bonnes choses et que Dieu va s'en souvenir. Ça nous encourage à persévérer. Ne voyons pas le tableau qui certes est peu flatteur, mais ne le voyons pas plus noir qu'il est. Pour nous préparer à comparaître devant ce tribunal, plusieurs versets nous invitent à faire dès maintenant et très régulièrement notre propre examen de conscience. Comme disait Chrysostome, imaginez que le juge, il est déjà là. On pourrait prendre cette image pour nous guider d'un bateau qui navigue sur l'océan. J'ai fait mon service dans la marine et on m'a rapporté cette anecdote. Quand vous ne naviguez qu'à l'estime, parce que ça fait 8 jours que le ciel est rempli de nuages et que vous ne pouvez pas vous repérer aux étoiles ou quoi que ce soit. Alors bon, aujourd'hui, on a des moyens encore plus évolués, mais j'ai fait mon service militaire en 83, il y avait déjà une vie à cette époque-là, oui. Et ils étaient restés plusieurs jours sans faire le point, et au bout de 8 jours, quand ils ont... L'officier qui me racontait l'histoire dit « Bon, je prends mon car, je donne un coup de sondeur, et il y a 80 mètres de fond, alors que normalement, il devrait y en avoir 700 ou 800, quoi. » Donc je me dis « Mais où on est ?» Donc ils font décoller l'hélicoptère, ils vont... Ils avaient dérivé pendant 8 jours, et alors qu'ils pensaient être à 300 km des côtes de l'Amazonie, ils étaient à 20 km. Voilà. Si on fait le point tous les jours, on ne dérive pas de 200 km. Si on reste 8 jours sans faire le point, bon. Je crois que c'est une image qui nous aide à comprendre qu'on a intérêt à faire notre examen de conscience régulièrement, à se placer jour après jour devant Dieu et à faire le point. Antoine nous a lu ce verset qu'on lit très souvent en introduction de la scène, « Que chacun donc s'examine lui-même ». Là, le contexte est « et qu'ainsi mangent du pain et boivent de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Galates 6, verset 4, « Que chacun examine ses propres œuvres, et il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non pas par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. » Ce verset nous rappelle qu'on est assez tenté de juger vite les autres. Là, il nous invite à nous examiner nous-mêmes. Seul Christ est légitime pour juger. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, mais comment on fait pour plaire à Dieu ? Alors je crois que vous en savez autant que moi là-dessus. Je veux dire, si vous lisez les Écritures, vous avez une idée de ce qui plaît à Dieu. J'en ai mentionné quelques-unes ici pour rappel. La foi plaît à Dieu. Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. » la foi, une récompense, les deux termes sont présents. Dieu récompensera les œuvres accomplies par amour. Matthieu 10, 42, « Si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Il a bien dû vous arriver un jour de donner un verre d'eau à quelqu'un. Bon, vous avez déjà une petite récompense au ciel. Dieu récompense ceux qui cherchent son royaume. Ben n'est pas resté aux États-Unis. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Dieu récompensera la droiture et la justice. Quant à toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur, point de suspension. Ce sont les consignes de Paul à Timothée, Timothée 2, chapitre 6, verset 11. J'en arrive à ma conclusion. Dans le texte étudié ce matin, Paul nous invite à vivre en tenant compte de notre destination finale et à investir dans ce qui sera durable et pas éphémère. Alors certes, le croyant a dès aujourd'hui l'assurance de la vie éternelle, et c'est pas rien. Mais Paul nous invite à viser encore plus haut afin d'obtenir la récompense que Dieu a prévu de nous accorder. 2 Corinthiens, mais chapitre 4, cette fois-ci, donc un peu avant le texte que nous avons lu tout à l'heure. Les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont somme toute légères et éphémères. Il y a des jours où ça ne paraît pas si évident que ça, hein, que ce soit léger et éphémère. Elles nous préparent pour l'éternité, une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Aussi n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps, les réalités invisibles demeurent éternellement. Est-ce que nous sommes conscients que sur cette terre, nous préparons notre éternité ? Certains, en étant négligents, seront privés de leur récompense. C'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 3. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Ici, Paul va utiliser une image, l'image du feu. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si la construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Dans quel état est-ce que nous voulons sortir du tribunal de Christ ? Vous choisissez quelle vue ? Ah, vous préférez être à gauche, hein, je pense. Il faut faire ce qu'il faut. Parce que c'est aujourd'hui que ça se décide. C'est tentant de se dire qu'on a le temps, que rien ne presse. En fait, on n'en sait rien. Et Antoine leur disait ce matin. Alors ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire dès aujourd'hui. Mais revenu en tête un verset de l'Ecclésiaste, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Quand on laisse passer le temps et qu'on tarde, eh bien, on risque de perdre sa motivation première. Nous avons vu que dans différentes épîtres, Paul nous invite à faire nous-mêmes notre examen de conscience, afin de voir si nous sommes sur le bon chemin ou si nous nous sommes laissés égarer par les attraits du monde. Alors je vous invite à terminer par cette prière. Qu'on peut faire tous les jours, je crois. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen.